bonjour à toutes et tous. Voilà, c'est encore moi. Je vous parle de deux romans très différents, mais que j'ai beaucoup aimés, tant pour leur contenu que pour leurs écritures. Déjà, je voulais vous parler des éditions Thierry Magnier, connues pour éditer des contenus engagés et qui questionnent, notamment sur les questions de l'adolescence. Plus particulièrement, leur collection qui s'appelle L'Ardeur, qui est destinée aux adolescents de 15 ans et plus. C'est une collection qui dit, je cite, « se poser résolument du côté du plaisir et de l'exploration libre et multiple que nous offrent nos corps ». Donc loin des clichés et de la vision unique et hétéronormée de la sexualité, cette collection propose une série d'ouvrages qui repensent le rapport au corps, aux normes et au genre. Cela avait été d'ailleurs le sujet d'une polémique à l'été 2023 avec la parution de Bien trop petit de Manu Kos, censuré par le gouvernement de Gérald Darmanin, qui en avait interdit l'achat aux mineurs pour, je cite, « contenu trop explicite ». Je pense justement que c'est le pouvoir transformateur et libérateur de ce genre de texte qui fait peur dans un renversement de pensée qu'ils détiennent. Donc de cette collection L'Ardeur, j'ai dévoré Queen Kong, un roman puissant d'Hélène Vidal sur la prise de pouvoir d'une adolescente victime de harcèlement. J'avais entendu parler de la chasse de Maureen Desmailles lors d'un festival de littérature jeunesse à Saint-Paul-Trois-Châteaux. J'en avais entendu parler par Thierry Magnier lui-même pour son caractère subversif. Et c'est un livre qui m'avait beaucoup intriguée parce qu'il réussit un exploit dans notre société, ne pas donner de genre au personnage principal. L'autrice, dans sa préface, nous invite à nous regarder nous-mêmes dans les moments où on penche plutôt d'un côté ou de l'autre. Je vous lis juste l'avant-propos pour que vous fassiez une idée. Dans ce roman, le genre du personnage principal, Max, est indéterminé. N'en faites pas un mystère à élucider. Le texte ne cache aucun indice, aucune clé, qui vous permette d'affirmer que Max est un garçon ou une fille. Les seules certitudes sont celles de votre imagination, car l'histoire racontée vous appartient. Aussi, affrontez vos préconçus. À quel moment lisez-vous le personnage au masculin ou au féminin et pourquoi ? Quel biais vous y pousse ? L'histoire change-t-elle avec le genre de son, sa narrateur-narratrice ? En matière de sexualité, comme dans tous les domaines, aucun geste, aucune pratique, aucune émotion n'est l'apanage d'un genre ou d'un autre. Tout le monde peut avoir peur, tout le monde peut pénétrer et tout le monde a besoin de capote. Voilà, donc je vous laisse curieux et curieuse d'aller voir ce livre, mais je vous le recommande vivement. Donc pour en dire un peu plus, l'histoire, elle est aussi rafraîchissante que l'exercice que l'autrice propose dans sa vision de l'amour. On suit Max, 17 ans, qui se sent invisible aux yeux des autres. Max fait la rencontre d'Élie et de Cosme, alors que ses parents sont partis installer son frère à Paris. Il s'ensuit alors un jeu de séduction propre à l'adolescence et à ses explorations, mais qui questionne aussi les contours du désir, de l'amour et de l'amitié. Donc voilà pour la chasse. J'ai aussi récemment lu un autre roman qui interroge aussi le regard que l'on peut porter sur les normes sociales sur un tout autre sujet. Il s'agit d'Apaiser nos tempêtes de Jean Egland. Je vous en avais déjà parlé, je pense, pour Dans la forêt et son autre roman qui est sorti à la suite. Et cette fois, Jean Egland nous emmène dans la vie de deux femmes, Anna et Cerise, et de leur expérience de la maternité. C'est agréablement déculpabilisant de lire leurs choix, leurs doutes et surtout la non-évidence à être parent. Je voulais juste le début du roman parce que c'est assez intéressant la manière dont l'autrice le commence. Elle décrit une photo et on mettra tout le récit à comprendre la portée de celle-ci. Après tout, un arbre se dresse sur un versant de colline battu par les vents. Seul entre les cieux qui s'assombrissent et la terre caillouteuse, il tend vers le haut ses branches noueuses qui sont en pleine floraison. Un soleil bas embrase les nuages lourds, réchauffe le ton brisé, enflamme ses milliers de fleurs. L'arbre a presque été fendu en deux, peut-être par la foudre, peut-être par le vent ou par le poids de ses fruits lors d'un automne trop fécond il y a longtemps. Une moitié gît au sol, à présent, stérile. Mais la moitié vivante se tient fière parée de fleurs blanches si nombreuses qu'elles semblent en suspens dans l'air lourd. Même les plus petites branches en sont recouvertes, et sur la photo, chaque pétale luit, telle la flamme d'une bougie. C'est ce nuage efflorescent et lumineux qui attire d'abord le regard. Piégée sous le ciel menaçant, l'improbable multitude de fleurs retient le spectateur lové dans l'instant. La contempler peut le transformer, et de spectateur le muer en témoin, puis peut-être en complice. La photo est belle, magnifique même, grande mais pas trop. Elle a été tirée plein cadre sur du papier mat double épaisseur, et ses noirs veloutés, ses gris éteints, ses blancs d'une richesse satinée témoignent tous de la maîtrise technique et peut-être du cœur de sa créatrice. Pourtant, le blanc le plus pur ne provient pas de l'intense lumière filtrant à travers les pétales du pommier à l'orée de l'orage, ni de l'éclat tumultueux des nuages sous le soleil rasant. Non. Il provient de la balafre blanche et morte qui barre le tirage sur toute sa longueur, du ciel menaçant jusqu'à la terre rocailleuse, en passant par les branches chargées de fleurs. Quelqu'un a plié la photo en deux. Quelqu'un l'a pliée, comme s'il s'agissait d'une lettre ou d'une coupure de journal, et ce pli a craquelé l'émulsion, laissant dans son sillage une longue cicatrice qui ne guérit pas. C'est choquant de voir cette image ainsi dégradée. Mais plus on l'étudie, plus on s'interroge. Le tirage refuse de se laisser aplatir. Ses coins sont cornés, son pourtour abîmé. Il semble avoir été manipulé si souvent que le pli blanc fait désormais quasi office de charnière. Un simple regard ne permet pas de dire si la photo a été sauvegardée ou détruite, si la dernière personne qui l'a eue entre ses mains y voyait un trésor ou l'a jugée bonne pour la poubelle. Mais à force de la scruter, un spectateur ou un complice finira peut-être par se demander si elle n'a pas eu sa raison d'être, après tout.